Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en septembre 2009 et c'est l'épisode numéro 18. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de toute l'actualité technologique, que ce soit Internet, les gadgets, les téléphones, les ordinateurs, les systèmes d'exploitation, tout ça. C'est ce dont on parle ici et nous sommes dans un épisode que l'on appelle généralement classique, puisque je suis avec mes deux co-animateurs traditionnels, c'est-à-dire Jeff et Yann. D'abord, bonjour à Jeff, comment vas-tu ?
Je vais très bien, bonjour Patrick, bonjour Yann, bonjour à tous. La Silicon Valley est comme d'habitude sous le soleil et nous avons plein de nouvelles pour vous et donc ça va être un bon rendez-vous tech.
Magnifique, je suis un petit peu jaloux je t'avoue parce qu'ici il commence à faire un peu froid, l'hiver se lève mais heureusement que tu es là pour nous apporter notre petite dose de soleil.
Écoute, hier on avait 28 degrés, on était faire du vélo avec la petite famille et il faisait super chaud pour une fin septembre. Et oui. Vous êtes toujours les bienvenus là où il fait beau et chaud.
Les enfants. je passerai peut-être te dire un petit coucou un de ces jours.
Ce sera avec grand plaisir.
Et bien sûr, le deuxième compère du Rendez-vous Tech, c'est Yann, qui a une actualité brûlante. Il se passe plein de choses dans ta vie, Yann.
Bah ouais,
juste avant de te donner la parole, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas parlé à Yann. Et puis je me suis dit, mais non, j'ai dû lui parler il y a un mois, puisqu'on a fait le rendez-vous tech il y a un mois. Et en fait, t'étais pas là. Donc ça fait deux mois que je t'ai pas parlé.
C'est
tragique pour moi dans ma vie de pas te parler pendant deux mois, Yann.
Ouais, t'avais personne pour te contredire pendant deux mois, donc du coup, ça a dû te faire bizarre. Hein.
Exactement, ouais.
Non, mais ça me fait vachement plaisir d'être à nouveau avec vous. C'est vrai que ça s'est un peu bousculé ces temps-ci dans ma vie. Et comme certains le savent, donc je déménage définitivement donc au Canada, je pars vendredi en fait, et quand tu disais qu'il commençait à faire froid et tout sur Paris, je suis en train de me dire, bah dis donc, les températures qu'il fait en ce moment sur Paris là, pour moi ce sera l'été bientôt hein, ces températures là, donc je suis en train de me préparer
psychologiquement. Tu vas au Canada ? Tu vas à Montréal ?
Ah ouais, dans un premier temps je vais à Montréal ouais, et puis ça va être le quartier général là-bas, puis après je vais commencer à lancer mes petites sondes pour chercher du boulot et tout, et puis après on verra quoi, si t'es à Toronto ou Québec ou je sais pas, enfin je suis vraiment très mobile quoi pour le moment, donc on verra.
Tu sais que Toronto c'est la ville où il fait tellement froid l'hiver qu'il y a en fait la rue principale au niveau normal, et en dessous tu as peut-être une quinzaine de mètres en dessous une rue parallèle où les gens se baladent l'hiver parce que c'est impossible d'être dehors. Je sais pas si vous savez, mais
j'ai entendu parler de ça et donc j'essaie de me faire à l'idée de vivre un petit peu comme une fourmi pendant le trois quarts de l'année. Mais non, mais voilà quoi, c'est une expérience à vivre et tout, et j'aime pas vivre avec des regrets. Donc voilà quoi, on tente l'aventure, on verra bien comment c'est. Et puis j'ai vu qu'il y a des auditeurs aussi qui nous écoutent depuis le Canada et qui sont contents que voilà quoi, qu'un des animateurs
puisse les rejoindre.
Donc voilà quoi, c'est sympa et ils ont l'air vachement sympa. Donc j'ai hâte d'y arriver.
Ils sont super sympas. Moi, j'adore Montréal. C'est une ville qui a une super ambiance. Ils sont vraiment géniaux, les cousins. Mais ça, c'est l'été, parce que l'hiver.
Non, mais moi, ce que j'attends le plus, en fait, c'est au bout d'un moment, quand tu seras là-bas, c'est de commencer à t'entendre parler avec l'accent canadien.
Non, ça risque pas. Ça risque pas.
Tabernacle.
Bah écoute, ça fait pratiquement 10 ans que je suis à Paris et j'ai toujours pas perdu mon accent entier, quoi. Donc.
Non, mais mélange canadien.
Imagine, antillais
avec un petit coup de québécois. Alors, je sais pas.
Bon, ça risque écoute, d'être en tout cas, En tout cas, tu nous tiendras au courant de comment ça se passe. Je pense, si tout va bien, tu pourras continuer à venir sur le Rendez-vous Tech. J'espère en tout cas que tu seras toujours là. Hein. Nous, on n'a pas prévu de remplaçant, donc tu seras toujours
c'est
là.
C'est gentil.
Le mois prochain. Donc, on va quand même se lancer dans l'émission. Mais avant ça, on va dire bonjour à la chatroom qui est avec nous. Toujours plus nombreuse, toujours plus sympathique. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Oui, tout le monde va bien. Bah, si vous voulez nous rejoindre dans la chatroom, vous pourrez avoir toutes les informations un petit peu plus tard dans l'émission. Mais entre-temps, on vous dit juste bonjour à tout le monde et on ne manquera pas de vous demander votre avis si on a une controverse dans l'émission, ce qui arrivera très certainement. Bon, allez, on se lance dans l'émission en elle-même avec le premier sujet qui est le Microsoft Courrier. Microsoft Courrier, c'est quoi? C'est pas un nouveau nom pour le mail. C'est un projet qui a été dévoilé. En fait, bon, remettons les choses dans leur contexte, ça a été un truc un petit peu bizarre parce que c'est un projet expérimental de Microsoft, une sorte de tablette, ordinateur en version tablette, donc tactile, qui a été présenté non pas par Microsoft, mais par un blog très très connu aux États-Unis qui s'appelle Gizmodo. C'est un blog de gadgets qui a une immense autorité et un immense lectorat. Mais ils ont eu ces informations de manière non officielle et ils ont fait une présentation quasiment officielle en quelque sorte, mais d'un produit qui n'était pas leur. Donc il y a eu beaucoup de bruit autour de cette histoire et beaucoup de controverses également, puisque c'est le fait de le présenter était un petit peu délicat, un petit peu discutable d'un point de vue déontologique. Parce que le produit est vraiment intéressant. Alors parlons avant tout du produit.
Ouais, il est magnifique.
C'est un truc Microsoft, donc Yann va forcément adorer. Non, c'est une tablette, une tablette tactile avec possibilité de toucher avec les doigts, donc en multitouch ou avec un stylet, qui présente deux écrans qu'on referme comme un livre, un petit peu comme la tablette Asus dont on parlait il y a quelques semaines. Et il y a en fait une vidéo démo qui présente les possibilités de cette tablette qui sont assez étonnantes et qui sont pensées assez profondément, qui sont assez réfléchies, ce qui n'est pas forcément l'habitude qu'on a avec Microsoft. Mais là, c'est un produit assez abouti. Et ce qui était surprenant, c'est qu'ils ont dit ensuite, après la présentation, que le produit était un simple prototype qui n'était pas prévu pour la commercialisation pour le moment, qu'ils avaient énormément de produits qu'ils étudiaient et que celui-là en faisait partie, mais qu'il n'avait pas de développement prévu pour le moment. Vous avez vu la vidéo, les gars? Vous en avez pensé quoi, vous?
Bah, moi, j'ai vu la vidéo et la première chose que j'ai lue, c'est qu'en fait, c'est pas une tablette, mais c'est un booklet. Hein, ils font vachement attention à la nomenclature. Mais voilà quoi. Le truc, c'est que déjà, quand tu vois le machin, c'est qu'il est vraiment sublime. On voit que déjà, d'un point de vue design, au niveau hardware, ils ont fait énormément d'efforts. Mais ce qui surprend beaucoup, c'est qu'on a l'impression que depuis le Zune HD, Microsoft fait vraiment beaucoup d'efforts sur le système d'exploitation, sur l'interface utilisateur et les écrans et la navigation et l'utilisation de ce Microsoft Courrier est vraiment taillé sur mesure pour le device. Et donc du coup, on a cette impression de fluidité, on a cette impression que tout est logique, tout est fluide. On note ses rendez-vous vraiment d'une façon très ludique.
C'est pas du tout genre une interface de Windows adaptée à une tablette. C'est un truc complètement revu depuis le début. On peut passer un machin d'un écran sur l'autre en le balançant très
facilement. En le faisant glisser,
ouais. Il y a un endroit pour stocker certains trucs dans la tranche, en fait, ce qui est une utilisation intéressante de la limitation de la différence entre les deux écrans. Oui, t'as tout à fait raison.
C'est vraiment... Et on voit qu'ils font cet effort depuis le Zune HD, qui a aussi une interface vraiment très travaillée. Et donc, effectivement, c'est multi-touch. Donc, on peut faire des mouvements avec tous les doigts pour écarter donc des photos, les rassembler ensemble. On peut balancer un contact d'un écran à l'autre en le faisant glisser avec un mouvement de la main. Enfin, c'est vraiment très... Alors, ça, pour le coup, ça ressemble beaucoup à ce que Apple fait, mais... On sait que Microsoft a essayé de temps en temps de copier Apple et ils l'ont mal fait, de façon maladroite souvent. Et là, pour le coup, la vidéo que j'ai vue et que j'encourage vraiment tous les auditeurs à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment bluffant, c'est simple, ouais. C'est propre. Et,
C'est vrai, c'est bien fait, c'est propre. Et même si c'est un petit peu copié sur... Enfin, c'est difficile de dire copié sur Apple, mais la simplicité et la propreté de l'interface font penser à Apple. Mais en tout cas, c'est pensé pour leurs produits à eux de Microsoft et ça fonctionne quoi. Et c'est pas non plus uniquement une copie d'Apple. Moi j'ai trouvé qu'ils avaient des logiques à eux qui fonctionnaient avec leurs produits. Donc,
Ouais. Mais peut-être que Jeff il aura un point de vue différent sur le truc. Je sais pas si t'as vu la vidéo, Jeff, non?
J'ai jeté un coup d'œil sur la vidéo. Faut se rappeler que dans le marché, il y a un certain nombre de tablettes qui vont arriver au début de l'année prochaine. Donc, évidemment, l'iPad. Alors, je sais pas si ça va s'appeler l'iPad, mais c'est comme ça que...
Le truc, la tablette d'Apple, quoi.
La tablette d'Apple, tout à fait. Puisqu'en fait, les quelques... pas prototypes, parce qu'on n'a jamais vu le prototype, mais les sketchs qu'on a vus, c'est en gros un gros iPhone, avec une interface... qui est celle que l'on connaît au niveau de l'iPhone, avec les programmes auxquels on a l'habitude, mais plein d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez vu la Crunchpad, qui est l'espèce de prototype que Mike Harrington a fait développer pour répondre à ses besoins personnels, si j'ose dire, par rapport à une tablette que j'ai eu la chance en fait, de toucher, donc j'ai joué avec.
Mike Harrington, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne
Monsieur
qui
était Tech à la base
de TechCrunch, qui est un autre blog technologique très très influent.
Tout à fait. C'est vrai que faut que je me rappelle de présenter TechCrunch parce que ici c'est pas la peine.
Et ouais. Pour préciser aux gens, il y a quatre blogs vraiment importants dans ce domaine. Il y a TechCrunch, Mashable, Gizmodo et Engadget. Gizmodo et Engadget sont plutôt gadgets et Mashable et TechCrunch sont start-up et logiciels.
Et technologie internet. Et donc, je pense qu'il va y avoir effectivement pas mal d'offres qui vont arriver sur le marché entre Noël. Noël, il y aura les annonces et je pense qu'on verra ça arriver l'année prochaine.
C'est vrai que ça commence à se bousculer au portillon, là. Hein.
Mm. C'est en gros la problématique de comment est-ce que j'arrive à mettre un ordinateur de plus dans la maison. Il y a des gens qui essaient qui pensent à mettre des netbooks dans la cuisine. Moi, je pense que la tablette, objectivement, c'est quelque chose qui est plus naturel. Donc, avec ce que j'ai pu voir de la Crunchpad, et puis étant, comme d'habitude, un fanboy d'Apple, je me jetterai sur la tablette d'Apple parce que, de toute façon, c'est ça que je voudrais dès qu'elle sera disponible. Parce que,
ouais, je pense que ça sera mon cas aussi. Mais pour revenir au Microsoft Courrier, peut-être que tu peux nous parler du Crunchpad rapidement et puis de Microsoft Courrier. Est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as pensé des deux puisque tu as eu la chance de voir ce Crunchpad qui est un produit un petit peu mirifique aussi?
Donc, le Crunchpad, si tu veux, c'est un espèce d'ordinateur. C'est un ordinateur qui a été designé par les gens qui travaillent avec Mike Harrington de zéro, en utilisant donc des composants qui existent à l'extérieur, qu'ils ont assemblés en faisant un ou deux prototypes qui tiennent par des bouts de ficelle et du scotch. Mais en tout cas, ça permet de voir un petit peu ce que la forme et puis l'interface utilisateur, qui est une version de Linux qui a été complètement amaigri pour ne garder que les trucs principaux. En gros, tu bootes sur un browser et tu accèdes en fait au service internet. Et oui, il n'y a rien d'autre qu'un browser, donc c'est super
D'accord.
rapide.
C'est pas super appétissant ce que tu dis là en fait.
Si, c'est un truc qui ça te donne accès à tous les services qui existent aujourd'hui sur internet et tu peux faire D'accord. énormément de choses sans avoir des.
Donc c'est une tablette avec un navigateur internet et ça ne fait que ça.
Et ça ne fait que ça et ça le fait bien.
D'accord. Et courrier?
Courrier,
Redwin demande dans la chatroom si courrier se prononce aussi courrier en anglais. En fait, c'est courier.
Courier.
Courier. Et courier, c'est une personne qui va, un courrier quoi, qui va vous apporter vos colis quand vous envoyez par un service payant de, enfin UPS, ce genre de truc. C'est le QR à bicyclette, quoi.
Donc, avoir Windows 7, donc, j'ai vu une démo de Windows 7 la semaine dernière avec des protos de tablettes PAL Courier chez Microsoft. Bon, c'est vrai que l'OS a été bien pensé pour tout ce qui est gestion tactile, etc.
Moi, ouais, mais c'est pas Windows 7 sur courrier. Hein, sur
ah non, non, clairement pas.
C'est pas Windows 7, ok.
Non, non.
C'est un truc qu'ils ont développé.
Mais voilà, enfin... Vraiment, j'insiste vraiment, allez jeter un coup d'œil, tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est vraiment designé, et je disais d'ailleurs que Apple faisait toujours l'effort de designer des systèmes d'exploitation pour leurs périphériques. L'iPhone, c'est pas un système d'exploitation générique, c'est vraiment un truc qui sont taillés pour ça, et donc du coup, c'est très fluide, c'est très intuitif, c'est vraiment très très beau, et c'est vraiment le type d'application qui ferait mouche. Ouais. Dans le qu'on retrouverait d'ailleurs dans les Microsoft Store qui sont en train de créer quoi directement dans leur salon, ils vont truffer ça de Microsoft Courrier et c'est vraiment le genre de truc qui ferait mouche quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est en train de se passer chez Microsoft parce que il y a le Zune HD dont tu as parlé plusieurs fois. Moi j'ai vu la table comment elle s'appelle
Surface,
son nom. Surface. Voilà. La table, il y a un petit mois à la conférence de presse de rentrée de Microsoft à Paris, dont j'avais parlé il y a deux semaines. Donc j'ai vu Surface qui est également très intéressante et dont l'interface a été développée spécialement pour ça, évidemment. Maintenant avec courrier, il y a un truc qui est en train de se passer chez Microsoft, hein, si ça se trouve. Et Windows 7 qui est dont tout le monde est très content. Et qui inclut également des fonctionnalités tactiles et multi-touch qui les donnent en accès à tout le monde, donc, puisqu'elles sont incluses à Windows 7. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et il sera intéressant de voir où ça va. Je vais vous...
Bah, où ça va, juste un mot sur où ça va. En fait, la façon dont Ballmer va décrire sa stratégie, c'est la stratégie des three screens, donc des trois écrans. Le téléphone, l'ordinateur, la télé. Et en gros, son objectif, c'est d'avoir une complète consistance de tes expériences, que ce soit, quel que soit en fait, l'écran que tu utilises pour accéder à ta donnée, à ta musique, à Internet, etc. Et donc, je pense que là où on n'a pas vu Microsoft depuis longtemps, c'est au niveau téléphone, donc Windows Mobile, et à la présentation où j'étais, où Ballmer en fait adressait 400 VC la semaine dernière, on voyait clairement que il n'est pas content du tout qu'aujourd'hui ce soit Apple et ce soit Google qui soit franchement en avance sur le smartphone. Le smartphone, il a reconnu qu'il s'était planté, et donc je pense que c'est là qu'il va faire beaucoup de travail. Et à mon avis, je ne serais pas étonné si l'OS que l'on voit aujourd'hui sur le courrier était en gros une espèce de preview de ce qu'on va pouvoir voir un jour sur des téléphones Microsoft, enfin, des téléphones qui font tourner l'OS de Microsoft. Ça me semblerait tout à fait logique.
Ok. Eh ben, on verra ce qui se passe dans ce domaine et peut-être qu'on verra ça dans les Microsoft Store, dans ces fameux magasins Microsoft qu'ils sont en train de mettre en place. Et pour mettre ces magasins en place, ils ont décidé d'aller voir là où ça marche bien et de faire pareil, voire de voler les gens qui savent comment ça fonctionne bien. Évidemment, quand on parle de Microsoft qui copie quelque chose, Apple n'est jamais bien loin, comme le disait Yann il y a quelques minutes.
Ouais.
Y a une histoire marrante qui est arrivée il y a quelques jours sur le fait que Microsoft va voir les responsables et les vendeurs des Apple Store et leur propose des salaires mirobolants pour les débaucher et leur demander de venir dans les magasins Microsoft qu'ils sont en train de monter.
Ouais. Donc voilà. Faudrait mettre tout ça au conditionnel quand même, hein, parce que honnêtement, alors pour le coup, si c'est vrai, c'est vraiment stupide et minable de la part de Microsoft. Enfin c'est mon point de vue par rapport à ça. Mais honnêtement, moi je me dis à qui profite le crime. Et là, en l'occurrence, quand tu vois un truc comme ça, tu dis, mais quand tu lis la source de l'article, tu vois qu'en fait, c'est une source anonyme qui aurait dit que voilà, Microsoft serait en train de voler des vendeurs de chez Apple dans les Apple Store.
En gros, tu y crois pas, quoi.
Mais écoute, les gars, ils sont formés sur des produits Apple, ils ne sont pas formés sur des produits Microsoft. Alors pourquoi tu recruterais des gens qui ne connaissent pas tes produits? C'est un buzz. Enfin, Microsoft fera un truc comme ça, à tous les coups, on va le découvrir. Et donc, du coup, ils se tirent une balle.
Non, mais c'est quoi. Non, je crois sincèrement que tu te trompes sur ce point. Le fait que Microsoft aille chercher les responsables des magasins Apple pour aller chercher un savoir-faire dans la gestion du magasin et dans l'organisation du magasin, pour moi, c'est pas du tout un coup. Enfin, c'est un coup bas, oui et non, mais en tout cas, c'est un coup intéressant parce qu'ils vont chercher la connaissance et l'habitude et la qualité. Enfin, c'est ce que font les gens quand ils veulent avoir un truc qui marche. Hein. C'est le truc qu'il faut faire, au contraire. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très intelligent.
Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, donc, et si, remettons les magasins Microsoft dans le contexte du système de distribution américain. Un des deux gros retailers, donc on avait Best Buy et Circuit City, donc c'est en gros la Fnac et puis je sais pas quels sont les gros trucs en France, Darty. Et en gros, Darty, la version américaine, s'est cassée la gueule, est partie en banqueroute, donc aujourd'hui il ne reste plus que Best Buy. Et ça crée une limite sur les produits qui vont être démontrés, qui vont être vendus, qui vont être disponibles dans les magasins. Et donc Microsoft a compris que les produits qui sont un peu plus avancés, qu'ils veulent essayer de promouvoir, parce qu'ils montrent que ce soit le soft, que ce soit le hard, qui mettent les produits Microsoft en valeur, il y en a de moins en moins. Et donc ils ont pris à leur compte le développement des Microsoft Stores dans lesquels ils vont pouvoir montrer l'ensemble de tous les produits comme ils le veulent. Et effectivement, Ballmer a dit qu'ils avaient été chercher des mecs de chez Walmart, ils ont été chercher des mecs de chez Apple, des mecs de chez Dell, qui sont des gens qui ont beaucoup d'expérience par rapport à ça et qui vont être capables de monter des produits qui seront intéressants et qui seront compétitifs par rapport à l'Apple Store. Parce que l'Apple Store, ce n'est pas uniquement les produits Apple, c'est aussi une expérience, une façon d'accueillir les clients, c'est une façon de vraiment gérer une expérience qui va être Apple. Et il faut que Microsoft fasse la même chose, et ça me semble tout à fait logique d'aller chercher des gens.
Les gens qui ne sont jamais allés dans un Apple Store ne se rendent peut-être pas compte vraiment de ce que c'est qu'un Apple Store. C'est plus qu'un magasin dans lequel on va acheter un truc. C'est vraiment une expérience différente du j'ai envie de dire presque du shopping. De la même manière peut-être qu'un magasin de fringues de luxe ou de presque une bijouterie va vous donner une expérience différente quand vous allez dans le magasin. Un Apple Store, ça va vous donner une expérience vraiment différente quand vous allez acheter votre truc. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de... Vous rentrez et puis vous... Enfin, bon, je ne vais pas me lancer dans une description de l'Apple Store. Yann va faire une rupture d'anévrisme.
Non, pas du tout.
Mais bon, c'est vrai que c'est une expérience particulière et je trouve que Microsoft, comme tu disais, Jeff, a raison d'aller chercher ce savoir-faire. Mais... L'Apple Store arrive bientôt à Paris, donc les Parisiens au moins pourront savoir, si, juger par eux-mêmes si Microsoft a raison d'aller essayer de débaucher les responsables de ce genre de boutique.
Il y avait trop l'Apple Store à Paris
prévu pour... le premier ouvre courant octobre, je crois, dans la galerie du Louvre, et il y en aura un deuxième près de l'Opéra, enfin collé à l'Opéra, quelques mois après.
Cool.
Et Microsoft s'est également pris une petite claque il y a quelques jours de ça, avec une annonce assez étrange de la part de Google, qui a dit on est en train de développer un add-on pour Internet Explorer, de manière à ce que Internet Explorer puisse afficher les pages Internet avec le moteur de notre navigateur à nous, c'est-à-dire de Google Chrome. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez installé cet add-on pour Internet Explorer, Internet Explorer ne travaillera plus vraiment et Google Chrome fera tout le travail derrière les rideaux et vous affichera ça sans vraiment que vous vous en rendiez compte. La raison qu'ils ont donné à ça, c'est qu'ils ont dit « on a essayé de faire marcher Google Wave ». Alors vous vous souvenez évidemment de Google Wave, pour lequel je suis super enthousiaste et qui sera disponible en version un petit peu plus ouverte par invitation d'ici quelques jours à peine. J'espère que je serai dans l'invitation, je croise tous les doigts que j'ai. Ils ont essayé de faire fonctionner cet outil très très enthousiaste qui doit remplacer le mail entre guillemets. Ils ont essayé de le faire fonctionner sur Internet Explorer, et Internet Explorer est tellement peu fidèle aux standards du web que ça ne fonctionnait pas du tout. Au bout d'un moment, les gars de Google ont dit « Bon, écoutez, on a d'autres choses à faire que de nous contorsionner pour faire rentrer ça dans Internet Explorer. Donc, on abandonne, on va coller Google Chrome, un navigateur digne de ce nom, dans Internet Explorer pour les gens qui le veulent. Et comme ça, Wave fonctionnera bien sur Internet Explorer et on s'emmerde plus à essayer de le développer spécifiquement pour Internet Explorer. Ouais. » Donc, c'était cette annonce un petit peu étrange parce que ça veut vraiment dire Internet Explorer n'est pas assez bon, n'est pas assez standard, n'est pas assez bien fait, et on va carrément le désosser, remplacer ce qu'il y a à l'intérieur pour les gens qui choisiront d'installer cet add-on au lieu d'utiliser un tout nouveau navigateur, ce qui peut être un petit peu intimidant pour certains parfois. Ça vous inspire quoi, cette histoire ?
Ah, je vais laisser Jeff répondre en premier.
Ah bah, je trouve ça super rigolo. Votre moteur, c'est de l'ado. Bon, maintenant, de toute façon, aujourd'hui, Internet Explorer a une. Tu peux rajouter des activités, tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc, effectivement, ils ont cette possibilité-là. Ça me paraît assez intéressant qu'ils aient décidé de prendre cette approche. Mais ça. C'est vraiment étonnant parce que quand tu penses à la. Ce que ça veut dire pour quelqu'un de forcer un download, enfin mettre un download entre ton produit et l'utilisateur, c'est vraiment mettre des barrières. Et j'imagine qu'ils n'ont pas dû avoir d'autre choix que de faire ça parce que
Tu parles de la barrière entre Google Wave, qui est un énorme projet pour Google, et l'immense majorité des gens qui utilisent Internet Explorer. Pour utiliser Google Wave, tous les gens qui utilisent Internet Explorer vont devoir installer cet add-on. Et c'est pas une démarche complètement anodine. Donc effectivement, ça a pas dû être un choix facile.
Oui, il faut savoir que quand tu amène quelqu'un sur une page web pour accéder à une fonctionnalité et que tu as besoin d'un download, donc d'aller chercher quelque chose qu'il faut que tu télécharges, etc., tu vas avoir 80-90% des gens qui vont faire marche arrière. Donc c'est vraiment mettre des gros obstacles et tu fais tout pour éviter ça. Donc ça, c'est intéressant.
Oui.
Ouais, je sais pas, enfin moi il y a deux trucs que je vois, que je trouve étranges quand même là-dedans, c'est que alors, je me suis renseigné quand même au niveau des arguments qu'annonce Google comme quoi IE, surtout IE 8 ne respecte pas les standards et qu'il est très très lent, etc. Et effectivement, j'ai lu des benchmarks et effectivement, par rapport à Firefox, par rapport à Google Chrome, IE est sévèrement à la traîne niveau performance. Mais en même temps, ils arrivent à faire tourner leur Google Wave sur un iPhone, sur un Android sans problème. Alors, sur encore de duo avec un IE 8, Je vois pas pourquoi l'utilisateur ne pourrait pas forcer l'utilisation de son navigateur. D'autant plus que Google Wave est un outil de collaboration qui serait, où l'utilisation en entreprise serait vraiment très intéressante. Et en entreprise, on n'a pas toujours la possibilité d'installer un plugin sur son poste. Et donc, du coup.
Oui, c'est vrai qu'en entreprise, ça va poser des problèmes.
Ouais, voilà, tu vois. Et pour peu que, ben voilà, qu'on ait le droit qu'utiliser KIE, ben là, on est bloqué. Donc, est-ce que Google essaie de faire vraiment un vrai forcing et dire, ben voilà, si vous voulez utiliser notre outil de collaboration, il faut carrément installer Google Chrome et réussir à faire passer Google Chrome en entreprise, là, forcément, ce sera un coup de maître. Mais voilà, je trouve que l'argument comme quoi IE 8 n'est pas assez performant et ne respecte pas les standards, je trouve quand même limite comme argument et je pense qu'il y a quelque chose derrière, quoi.
Leur intérêt serait d'avoir disponible à autant de gens que possible. Donc je pense pas que, comme le disait Jeff, ils l'auront certainement pas fait de gaieté de cœur d'obliger l'installation de cet add-on.
Non, mais je pense que tu auras un gros truc du genre ok, alors pour pouvoir afficher cette page, soit vous utilisez notre magnifique, super génial Google Chrome que vous pouvez télécharger avec un gros bouton qui fait 400x400, ou sinon installer le petit plugin qui est en bas, tu vois. Mais moi je le vois comme ça, mais en même temps je suis un vendu Microsoft, donc je vois la bête partout. Mais voilà quoi, je trouve que c'est, si tu arrives à faire tourner Google Wave sur un iPhone, vas-y quoi, tu vas pas me dire que sur mon quad-core je peux pas faire sur
c'est pas une question de puissance, c'est une question de standard. Et sur l'iPhone, le navigateur de l'iPhone est Safari, le navigateur développé par Apple, et il est il respecte totalement les standards, ce qui n'est pas.
Enfin, moi, c'est plus une question de performance qu'ils disent. Et dans les benchs, c'est niveau perf que IE est vraiment à la ramasse. Côté CSS, ils sont largement dans les clous. Bon, les tests acides, c'est pas encore ça, mais bon, ça se font plus ou moins. C'est vraiment au niveau JavaScript. JavaScript, IE est vraiment à la ramasse par rapport aux autres. Quoi. Ouais. Mais bon, si t'as une machine performante, il n'y a pas de raison que ça puisse pas s'afficher. Donc voilà, je suis un petit peu dubitatif.
Bon, moi j'aurais tendance
pas s'étendre là-dessus, mais je pense que si tu veux aujourd'hui avoir une expérience utilisateur qui soit vraiment super sympa, rapide, dynamique, etc., et que tu dois coder sur Firefox, sur Safari, sur IE les différentes versions d'AI sur PC, sur Mac, c'est un cauchemar. Et peut-être qu'in fine, les mecs, ils ont dit...
Est-ce qu'il y a des gens qui sont qui, dans la chatroom qui sont des développeurs pour le web, en HTML, et qui développent sur Internet Explorer? Est-ce que c'est véritablement aussi horrible qu'on le dit? Dites-nous ça, et puis je reviendrai vers vous d'ici quelques minutes. Ah bah tiens, on a déjà des réponses.
Je les vois pas, mais je l'imagine déjà, quoi.
Ouais, les gens ont l'air de dire que c'est un petit peu... À vrai dire, même moi, à mon petit niveau, j'ai eu l'expérience en développant mes sites web, et à chaque fois, il y en avait un sur lequel ça ne marchait pas, le site web ne s'affichait pas bien, c'était Internet Explorer. Alors j'imagine à peine ce que c'est quand c'est une application aussi complexe que Google Wave. Bon, 4 ou 5 personnes ont répondu qu'effectivement c'était compliqué pour eux. Bon, donc, quoi qu'il en soit, si vous êtes sur Internet Explorer, vous pourrez télécharger cet add-on. Je pense que les gens qui sont encore sur Internet Explorer seront ceux qui sont le moins susceptibles d'installer un add-on. Mais bon, Google, en tout cas, a fait ce choix-là. Un autre choix intéressant qu'ils ont fait il y a quelques jours, c'est le développement de cet outil qui s'appelle Google SideWiki, qui est un concept qui n'est pas nouveau, mais qui a provoqué beaucoup d'inquiétudes sur le web. L'idée, c'est d'avoir un outil disponible grâce à Google qui soit en fait un outil de commentaire sur les sites web, mais qui est en dehors des sites web eux-mêmes. C'est-à-dire que grâce à la Google Toolbar, à la barre d'outils Google, vous avez un nouveau bouton qui s'appelle SideWiki. Donc c'est une sorte de barre qui s'affiche sur le côté, sur laquelle vous allez pouvoir... laisser des commentaires qui concernent le site sur lequel vous êtes en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que les commentaires ne sont pas sur le site en lui-même, mais chez Google et associés à ce site-là. Donc, vous allez pouvoir laisser des commentaires et bien évidemment voir les commentaires qu'ont mis les autres internautes sur ce site. Donc, si vous voulez savoir, si vous voulez avoir une opinion indépendante comment dire, qui n'est pas contrôlé par le site de ce site, vous pouvez utiliser cet outil. C'est une idée intéressante, ce ne sont pas les premiers à l'avoir eu. Oula, pardon, j'ai la digestion difficile, excusez-moi. ce ne sont pas les premiers à avoir eu cette idée, hein, il faut être bien clair là-dessus, mais la puissance de Google fait qu'elle pourrait éventuellement avoir plus de succès que quand d'autres ont essayé de l'implémenter. Moi, j'avoue que l'idée m'intéresse, mais j'ai entendu beaucoup de commentateurs en parler et du coup, j'ai été un petit peu plus inquiet parce que la première préoccupation des administrateurs de sites web, quand ils ont entendu parler de ça, c'est qu'ils se sont dit « il va y avoir ces commentaires sur lesquels on n'a aucun contrôle, qui seront associés à notre site et qui seront omniprésents parce que Google en sera en charge. » Et ils risquent d'avoir un gros succès. Et c'est très inquiétant d'avoir ce type de commentaires quand on ne peut rien contrôler dessus. Surtout quand on sait ce qui se passe sur Internet en général avec les commentaires.
Ah ouais, c'est clair. Quand tu fais ton site et que tu t'arraches, enfin, tu donnes ton maximum et que tu vois que quelqu'un insulte ton site de tous les noms et qu'il l'insulte sur le système de Google et qu'après tu balances une de ces insultes dans Google pour faire une recherche et qu'on tombe sur ton site... Ben voilà quoi, enfin quelque part à tous les coups je suis sûr que Google vont utiliser donc ces commentaires pour améliorer leur moteur de recherche et ressortir les sites les plus pertinents. Maintenant si les commentaires en question ne sont pas très glorieux et limite contre-productifs et qui salissent ton image et que tu peux rien faire pour empêcher ça, c'est vraiment dommage quoi. Donc effectivement c'est un petit peu inquiétant. En même temps c'est sympa pour les gens qui développent un site et qui n'ont pas forcément le temps d'implémenter un système de commentaires. Bon là c'est typiquement le cas où c'est intéressant d'avoir ce genre d'outil, mais voilà quoi, on a effectivement ce revers de la médaille comme tu le dis et qu'on n'a pas le pouvoir de...
Bah, surtout que c'est vraiment un des commentaires qui vont être associés à ton site finalement et imaginons image, hein. les commentaires négatifs c'est une chose, mais imaginons qu'il y ait des commentaires qui dégénèrent sur, est-ce que je sais moi des discours haineux, racistes, ce genre de choses, tu n'as aucun contrôle dessus et ils sont vraiment collés à ton site donc,
ouais, tout à fait.
Parce que encore pour le moment il faut installer un add-on, il faut cliquer sur le truc pour le voir, mais le jour où ça sera par défaut dans Google Chrome et où ça s'affichera automatiquement, l'internaute de base ne fera pas forcément la différence entre SideWiki et ton site lui-même. Donc bon, c'est un petit peu c'est une bonne idée qui a été implémentée un petit peu vite, peut-être sans trop.
Bah, c'est vrai qu'à ce jour, il y a eu beaucoup de boîtes qui ont essayé de monter des outils d'annotation, de commentaires, de wiki, machin, etc. Ils sont tous plantés parce qu'en fait, aucun d'entre eux avait résolu la problématique de la distribution, c'est-à-dire comment est-ce que je fais en sorte de donner accès à la fonctionnalité à des millions d'utilisateurs. Parce que c'est Google, un, ils ont la distribution immédiate, c'est dans toutes les Google Toolbars, et deux, surtout, comme le disait Yann, ils ont la possibilité de prendre tous ces commentaires, tout ce contenu, et de l'indexer en même temps qu'ils indexent les sites eux-mêmes, et ça, il y a clairement un potentiel dommage, puisque une start-up tartempion qui ferait ça ne sera pas indexée, ne sera pas reconnue comme étant autoritaire sur le site, et donc Google ne l'indexera pas, ou s'il l'indexe, l'information sera sur la 36e page. Là, il y a effectivement la possibilité de retrouver ça très très rapidement au niveau de l'interface utilisateur sur le site, mais aussi dans les recherches. Imagine que on puisse voir à gauche les liens, à droite les commentaires. Et c'est quelque chose. Il faut que Google réfléchisse bien à la façon dont ils vont l'implémenter pour qu'il n'y ait pas trop d'abus, quoi.
Bah là, oui, et là il est. Enfin, tu parles de l'implémentation dans la recherche, mais là il est déjà implémenté sur tous les sites. Donc.
Ouais. Enfin, je vois mal un truc comme ça. Enfin, t'imagines. J'aimerais bien aller sur whitehouse.gov pour voir les commentaires qui sont. Enfin, je suis sûr quelque part, on va pouvoir. Enfin, si tu peux tirer les ficelles, tu vas pouvoir modérer, quoi. Mais il faut vraiment avoir de grosses connexions, et donc c'est pas faire, et voilà, quoi. Enfin, c'est dommage. Mais bon, on va pas se caler là-dessus.
Google a aussi d'autres, décidément ça fait beaucoup de choses sur Google aujourd'hui. Il y a deux petites histoires supplémentaires dont je voudrais parler. L'une, c'est que c'est vrai que beaucoup de gens se mettent à dire que Google est quand même un petit peu inquiétant en ce moment, parce qu'ils ont les mains partout et les tentacules qui s'étendent partout, et ils connaissent beaucoup de choses sur beaucoup de gens. Et ben, ils ont initié un projet qui est très intéressant et qui est très inhabituel pour une grosse boîte. C'est que ils ont lancé le projet qui s'appelle Data Liberation, donc libération des données, qui devrait à terme aider n'importe quel utilisateur à quitter Google. C'est-à-dire que pour tous leurs comptes et les informations qu'ils conservent sur vous, il y aura un moyen de soit les effacer, soit les transférer, en tout cas, les emmener ailleurs. Si vous voulez utiliser un autre service, eh ben, ils vont faciliter cette opération pour vous. C'est quand même la première fois de ma vie, je crois, que j'entends une boîte qui fait d'elle-même, volontairement, qui a une initiative comme ça. C'est surprenant, et ça rassure un petit peu sur les intentions de Google et leur fameux « don't be evil », ne soyez pas maléfique. Là, visiblement, ça suit ce mantra-là.
C'est effectivement une très bonne chose qu'ils aient fait ça. Moi, ce que je retiens surtout, et ce sera, allez, on va appeler ça le conseil du rendez-vous tech, que j'aurais repiqué du coup sur ce site, c'est que, en fait, les ingénieurs de Google vous donnent le conseil suivant, c'est que dès que vous vous inscrivez sur un site où on gère du contenu, où vous allez potentiellement ajouter du contenu, faut vous poser trois questions. C'est déjà, est-ce que je peux supprimer tout le contenu que je suis en train d'ajouter sur ce site? Est-ce que je peux déplacer, donc enlever le contenu et le transférer vers un autre site? Et combien de temps ça va me prendre? C'est vraiment des questions qu'il faut vous poser, qu'il faut absolument vous poser avant de créer donc votre compte sur un site. Moi, en l'occurrence, pour ceux qui me suivent, enfin, certaines personnes savent que j'ai un podcast qui s'appelle Bande de Noobs. Je l'avais créé sur un blog, je crois que ça s'appelait B2Evolution, et j'ai voulu le migrer sur WordPress, et j'ai eu toutes les peines du monde à le faire, et B2Evolution n'avait tout simplement pas de mécanisme qui permettait d'exporter vers un autre moteur. Et ce genre d'initiative qui va référencer, ben, finalement toutes les façons d'exporter de fournisseur à un autre, c'est quelque chose qui m'aurait été bien utile à l'époque, quoi. Donc avant de vous inscrire chez un fournisseur et de passer des heures, des semaines, voire des mois à y ajouter du contenu pour finalement vous rendre compte que c'est pas le service qu'il vous fallait et que vous êtes obligé de tout refaire sur un autre fournisseur parce que vous pouvez pas transférer les données, pensez bien à ces questions. Est-ce que je peux transférer mes données vers un autre service et combien de temps ça va me prendre, quoi? C'est vraiment très important.
Autre info sur Google, là aussi ils ont plutôt le beau rôle. Une banque est en train de le faire un procès pour une histoire assez surprenante et peut-être risible à l'origine, mais qui finalement a des conséquences très importantes. C'est en fait l'employé d'une banque qui a envoyé par erreur des fichiers confidentiels avec des informations sur leur client à une adresse email chez Google, une adresse Gmail qui n'était pas la bonne. C'était une adresse de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Suite à ça, ils ont renvoyé un autre email en disant « Ouh là là, mon Dieu, surtout envoyez supprimez cet email dès que vous le recevez sans regarder. » Évidemment, ils ne pouvaient pas être sûrs que la personne qui allait recevoir cet email allait supprimer l'email précédent.
Incroyable.
Et ils se sont inquiétés et ils ont demandé à Google d'avoir les informations sur le propriétaire de ce compte. Évidemment, Google, protégeant la vie privée de ses clients, de ses utilisateurs, a dit « Bah non, désolé, c'est votre erreur, c'est vous qui avez fait l'erreur et c'est votre problème, on ne peut pas vous révéler comme ça l'identité de notre utilisateur. » Du coup, la banque est allée devant les tribunaux, fait un procès à Google pour essayer d'obtenir les informations. C'est très inquiétant, enfin, inquiétant, c'est préoccupant pour deux raisons. D'une part, c'est pas mal parce que Google a dit on ne peut pas faire ça sans ordre légal, donc la procédure suit son cours, c'est une bonne chose. Par contre, ça veut dire si jamais le juge décide qu'il faut effectivement révéler l'identité de cet utilisateur, c'est très inquiétant parce que ça veut dire que sans qu'il ne soit responsable de quoi que ce soit, il n'était même pas client de la banque ni rien. Il se retrouve à être obligé de devoir révéler son identité pour une erreur de l'autre partie, du plaignant. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu inquiétant. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est une histoire plutôt surprenante, on va dire.
J'ai envoyé mon numéro de carte bleue à Johnny Hallyday et après, je lui file un procès au cul. Comme ça, je vais gagner plein de thunes. Non, mais c'est parfaitement ridicule. Mais en même temps, j'ai mon beau-frère qui travaille dans une grande banque française. Et en fait, il me disait que malgré son haut niveau de responsabilité, ils n'ont tout simplement pas accès à Internet au bureau, quoi. Et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, effectivement, il me disait que c'était pour des mesures de sécurité. Et lui, il aurait jamais pu se retrouver dans une situation comme ça parce qu'il ne peut même pas envoyer un mail à un client, quoi. Donc... Effectivement, enfin, pour le coup, en France, on fait des choses bien au niveau de nos banques. Et,
En France, peut-être que c'est cette banque-là en particulier.
Ouais, peut-être.
Non, mais je veux juste préciser une chose, c'est que c'est pas parce que le juge ordonne à Google de transmettre les informations de la personne en question que ça va être public. Ça peut très bien être fait sous couvert de confidentialité, donc il se peut très bien que le jugement où il y aura l'information soit sous scellé, et donc l'entité de la personne en question sera protégée. Mais c'est vrai que...
Certainement, mais je veux dire, c'est quand même hallucinant que par la faute d'une erreur de cette banque, ouais, le type soit obligé de révéler, peut-être, hein, soit obligé de révéler.
Oui, et puis c'est pas évident que le juge dise, on verra ce que le juge en question dit de faire, et puis, sachant que ça va prendre des semaines et des semaines et des semaines, et que Google, typiquement dans ces cas-là, est pas fait, enfin, ils vont défendre leurs principes, donc c'est le genre de truc, dans 6 mois ou dans 1 an, peut-être qu'il y aura une...
Enfin, il y a un antécédent quand même. Il y a une affaire comme ça il y a eu 2 ou 3 mois où Google a été obligé de révéler l'identité d'une personne qui critiquait une autre personne sur le net. Je ne sais plus comment ça s'était passé, mais il y a eu un antécédent.
L'histoire du blog, oui. L'effet Barbara Streisand dont on avait parlé il y a quelques...
Exactement.
Mais bon, d'un autre côté, si on veut se faire un petit peu l'avocat du diable pour conclure, c'est vrai que c'est une situation peut-être un petit peu exceptionnelle. Imaginons que... on ne sait pas à qui ils ont envoyé ces informations. Imaginons que ce soit nos numéros de cartes bancaires et de comptes à nous trois qui aient été envoyés à quelqu'un dont on ne sait rien. Peut-être qu'on serait de l'autre côté en train de dire « Oui, bon...
c'est pas normal et tout !»
Ouais, voilà, il est gentil avec son anonymat et son respect de la vie privée, mais
c'est mon compte. Hein.
Voilà, exactement.
Ouais, c'est vrai.
Un autre truc assez important qui s'est passé il y a une semaine environ aux États-Unis, c'est c'est pas une loi en fait. J'étais sur This Week in Tech d'ailleurs il y a la semaine dernière pour ceux qui connaissent cette émission qui est une émission extrêmement célèbre de la sphère technologique aux États-Unis. J'ai eu l'honneur d'y être invité et j'avais dit c'est une loi.
On en est très fiers, Patrick. Bravo.
Merci, merci. Ouais, c'est gentil. et j'avais dit donc c'est une loi, mais c'est pas une loi. C'est une règle de la FCC, donc la Fédérale. Damned, à chaque fois j'oublie son nom. FCC, c'est.
Il y a Commission dedans, alors après. Ouais.
Communication. Federal Communication Commission. Yeah.
Voilà. Donc la commission qui gère tous les outils de communication aux États-Unis, qui a dit en fait, nous allons établir une règle selon laquelle nous allons instaurer la neutralité du net, la net neutrality. Qu'est-ce que c'est que ce principe ? C'est un principe selon lequel un fournisseur doit garder Internet égal pour tout le monde, égal entre guillemets, ça veut dire qu'il ne peut pas sélectionner le type de contenu qu'il va livrer à ses abonnés et le type de contenu qu'il va bloquer. Il y a beaucoup de fournisseurs d'accès qui arguaient du fait que ils étaient obligés de contrôler les flux d'informations qui provenaient d'Internet pour fournir un service de qualité. Et il disait, par exemple, les téléchargements de vidéos, on ne parle pas forcément uniquement de téléchargements illégaux, hein, mais certains types de vidéos qui sont très demandants en bande passante, eh ben, on voudrait pouvoir serrer un petit peu la vis là-dessus parce que ça nous demande trop d'efforts au niveau de notre infrastructure. Et c'est un combat contre lequel un combat que mènent les défenseurs de la liberté d'expression sur le net depuis très longtemps. Parce que si on commence à contrôler ce qu'on livre aux gens pour le net, ce qu'on livre aux gens sur le net, c'est une pente très glissante et très dangereuse parce qu'ils vont commencer en disant oui, on va limiter un petit peu tel type de contenu et après on va finir par décider BitTorrent, c'est des trucs qu'on n'aime pas donc on va pas le livrer du tout. Peut-être à terme, pourquoi pas sélectionner quelques sites web qui vont être accessibles et d'autres, on va dire, voilà, pour 5 ou 10 euros, vous avez le droit d'accéder à ces 150 grands sites web. Et puis les autres sites, il faut payer plus pour les avoir. Ou ce genre de politique qui serait tout à fait imaginable. La FCC est intervenue là-dedans et a dit le net doit être égal partout et pour tout le monde, quels que soient les supports et quels que soient les moyens de diffusion. Et ça inclut des choses comme les téléphones portables ou les réseaux de mobile, ou par exemple des services comme Skype sont bloqués. On en a fait l'expérience avec Jeff il y a quelques semaines. Si on a une clé USB Bouygues ou SFR, on ne peut pas utiliser Skype. Sous cette règle de la FCC, ce type de pratique serait interdite. Très 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 bonne chose, en tout cas aux États-Unis.
Mais alors voilà, c'est juste pour les États-Unis ce truc.
Tout à fait, oui, bien sûr. La FCC ne gère encore que les États-Unis. Pour l'instant, on est en train de passer à Dopi.
Il faudrait que ça passe, je sais pas moi, en Iran ou en Chine, un truc comme ça. Mais
Non, mais c'est important quand même pour les pays comme les nôtres que ce type de principe soit observé et respecté parce que ça peut dériver très très vite et très loin. J'ai fait un immense discours comme d'habitude, je m'arrête pas de parler, mais c'est peut-être Jeff qui aurait dû en parler puisqu'il est là-bas.
Non, mais tu as tout à fait et très bien résumé, ensuite rallongé. Merci. Ce qu'il fallait dire sur ce sujet. Mais non, objectivement, c'est vrai. C'est absolument fondamental, vu l'importance d'Internet aujourd'hui sur l'accès à l'information, l'accès aux services, que ce soit complètement neutre. Et c'est une très très bonne nouvelle que Julius ait décidé de mettre les pieds dans le plat et d'essayer de réguler ça. Mais faut pas se leurrer, il va y avoir des attaques par Comcast, par les grands... AT&T, des grands fournisseurs d'accès, merci, pour essayer de limiter cette loi pour qu'ils puissent continuer en fait à faire leurs petites sauces, leurs petits accords par-ci par-là, où il y a des gens qui ont un accès privilégié.
Ouais. Pour conclure, pas tout à fait conclure, mais pour aller vers la fin de cette partie, tu avais trois histoires dont tu voulais nous parler, Jeff.
Oui, c'est donc en direct de la vallée, on va parler de Facebook, de Twitter et d'Apple encore.
Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas compris et qui nous rejoignent dans cette émission pour la première fois, Jeff nous appelle en direct de la Silicon Valley aux États-Unis, hein, en Californie.
Et que voilà. Je lis TechCrunch, et etc. Et donc, Les trois choses qui ont retenu mon attention, qui étaient en fait, je pense, des chiffres importants, dans le désordre, Facebook a passé le cap des 300 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même énorme pour un site qui existe que depuis quelques années, donc 300 millions, c'est quand même énorme.
Oui, 300 millions, c'est presque la population des États-Unis, quoi.
Oui, c'est dans 50 pays, donc...
Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, si Facebook était un pays, ça serait un pays de la taille des États-Unis quasiment.
Ce serait
bon, d'accord,
un des
plus gros. T'aimes pas mon analogie,
j'ai sinon, tu as raison. En fait.
C'est une analogie.
J'aime beaucoup le côté mondial de Facebook aujourd'hui, donc le fait que ce soit juste un pays, mais tu as raison. Et ils ont également annoncé qu'ils étaient arrivés à passer un de leurs objectifs qui était de faire de l'argent. Donc ils sont maintenant cash flow break-even, comme on dit. Donc ils arrivent sur une année maintenant à faire de l'argent, ce qui est une très très bonne nouvelle.
Oui, parce qu'on a tendance à oublier que beaucoup de ces sociétés qui font énormément de bruit, souvent, continuent à perdre de l'argent. C'est le cas notamment de YouTube, qui va peut-être commencer à gagner de l'argent d'ici quelques mois, mais on n'est pas sûr, mais peut-être. Et YouTube, c'est monimental. Donc,
YouTube, il y a eu une estimation qui avait été faite par une banque, je crois, qui disait que, grosso modo, il faisait à peu près 250 millions de dollars de revenus annuel ou annualisé, et leur niveau de dépense était entre 750 millions et 1 milliard. Donc ils faisaient effectivement, ils perdaient énormément d'argent. Cela dit, la question, parce que je pense que c'est réducteur de considérer YouTube simplement comme une propriété, c'est qu'est-ce que Google bénéficie en fait. Non, j'arrive pas à faire une phrase française, c'est pas possible.
En quoi Google bénéficie de.
Merci Patrick. Pourquoi ça permet à Google de faire d'autres choses, de récupérer de l'information, parce que aujourd'hui, faut pas oublier que le deuxième plus gros search engine au monde après Google, c'est YouTube, quand même. Et donc ça, c'est une valeur énorme qui sera créée peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais j'ai aucun doute que YouTube sera une opération extrêmement profitable pour Google dans le long terme.
Donc, entre-temps, ils ont 19 milliards de cash entre les mains, Google, donc ils ont le temps de voir venir.
Oui, ça c'est clair. donc Facebook 300 millions, Facebook fait de l'argent. L'Apple Store, donc Apple a annoncé qu'il venait de passer les 2 milliards de downloads.
Donc, tu parles de l'App Store. Hein,
de l'App Store, tout à fait, de l'App Store. Ouais. Donc 85 000 applications sur l'App Store, 2 milliards de downloads en 15 mois. C'est vraiment énorme.
C'est marrant que tu dises ça parce que pas plus tard qu'il y a 2 heures, comme je pars au Canada, donc je regarde un petit peu si le Palm Pre est disponible au Canada et tout, je tombe sur le Palm Pre et je lis une news très récente comme quoi, mais c'est un truc sérieux, enfin c'est un site fan du Palm Pre, et ils disent maintenant 200 applications disponibles sur l'Apple, enfin le store du Palm Pre, tu vois, et je me dis mais pour eux c'était la folie quoi, c'est bon, c'est parti,
et on a passé les 4000 downloads.
Et là tu dis 85 000 applications sur l'App Store, c'est même pas comparable quoi, donc effectivement c'est vraiment énorme.
Et je pense que la question c'est quand est-ce que Apple pourra dire on vient de passer les 100 millions d'iPhone et d'Apple Touch, et c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver, est-ce que c'est Noël prochain, est-ce que c'est le Noël d'après, aujourd'hui je sais même pas où on en est, entre 40 et 50 millions j'imagine, mais ils en vendent tellement que c'est une étape que l'on va voir dans pas très longtemps.
Et chacun de ces terminaux, qu'il soit iPod Touch ou iPhone, est une ligne directe sur le magasin en question dont on parle. Pour les gens qui n'ont pas d'iPhone ou d'iPod Touch, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est une ligne directe vers l'App Store où on peut aller dépenser ses sous pour Apple et les développeurs. Donc c'est d'une importance capitale ce chiffre.
Oui, puis une fois qu'on a mis sa carte de crédit là-dedans, on n'a même plus besoin de passer par l'étape de « allez, on paye un coup » et ça coûte un fric fou à la fin du mois. Et enfin, la news la plus importante de toutes, c'est « mes amis, Twitter vaut 1 milliard ». Donc, ils ont la semaine dernière annoncé...
Ça veut dire quoi, Twitter vaut 1 milliard ?
Alors... La semaine dernière, Twitter a annoncé qu'ils avaient fait un nouveau tour de financement. Donc, ils ont été levés de l'argent auprès d'Inside Venture Partners, qui est un gros fonds plutôt de private equity basé à New York, et de T. Rowe Price, qui est un gros gestionnaire de d'OPCVM du genre FCP et Mutual Funds.
Oula, j'ai rien compris à ce que t'as dit là.
Bah, c'est des gens qui ont des énormes fonds que tu vas acheter auprès de ta banque pour placer tes sous.
D'accord.
Donc ce sont pas des capitaux risqueurs, ce sont des gens qui ont des fonds qui représentent des dizaines de milliards. Et donc ces investisseurs ont mis 100 millions de dollars chez Twitter. Donc Twitter aujourd'hui, si on va regarder dans leur compte bancaire, doit y avoir à peu près, suivant mes estimations, 120 millions de dollars, puisqu'ils ont encore plein d'argent du dernier tour qu'ils avaient fait de 25 millions il y a quelques mois. Et ces investisseurs, quand ils ont payé 100 millions, ils ont récupéré 10% de la boîte. Et donc, quand tu payes 10% d'une boîte 100 millions, ça veut dire que la boîte vaut 1 milliard.
Ouais, c'est une façon. Enfin, c'est un calcul logique en même temps. Hein, donc, ouais.
Oui, oui, non, c'est sûr. C'est bon, c'est toujours.
Ils ont pas un milliard sur leur compte, quoi.
Mais ouais. Non, ils ont 120 millions.
Oui, 120 millions, ce qui est quand même pas 4 cacahuètes non plus. Hein. C'est il faut quand même voir ce que c'est le principe de Twitter. C'est j'envoie 140 caractères à des gens quelque part sur le net, et voilà, c'est le principe de l'outil. Donc qu'ils aient réussi à amener ça à récupérer, ne serait-ce que leurs 120 millions de dollars, c'est bon. On n'est pas non plus les derniers pour dire que Twitter est un outil impressionnant et intéressant.
Tu verras, il y aura bientôt Twitter OS, tu vois, un truc, un OS où tu peux avoir que 140 applications maximum. Tu verras. Enfin bref, on verra bien.
Effectivement.
Et donc, il y a eu pas mal de débats sur est-ce que Twitter vaut ça, pourquoi est-ce que Twitter vaut ça, pourquoi Twitter vaut pas ça, pourquoi c'est débile, pourquoi c'est pas débile. Mais je pensais que c'était quand même quelque chose à mentionner, parce que passer le chiffre du milliard de valorisation, c'est quand même énorme. Je veux dire, ne serait-ce qu'arriver à 9 chiffres, donc monter une boîte de quelques millions de dollars, qui est typiquement la boîte dans laquelle nous on investit quand on va mettre des sous au premier tour, amener une boîte à ne serait-ce que 100 millions de dollars, c'est un succès énorme. Passer à 1 milliard, passer les 10 chiffres, c'est très très rare. Donc ce que je souhaite à mes copains de Twitter, c'est de faire en sorte qu'ils prouvent au monde qu'ils sont valables, qu'ils valent bien plus qu'un milliard.
Bien plus, tu penses qu'ils peuvent. Bah, à vrai dire, leur.
Ah, bah, c'est le pari des investisseurs. C'est le pari des investisseurs. Quand tu investis à ce prix-là en tant qu'investisseur, tu t'attends à faire au minimum entre 2, 3 et 5 fois la mise. Donc, ça veut dire que le GUS de Inside Venture Partners qui a signé pour mettre ses, je sais pas, ses 10, 20, 30, 50 millions dans le deal, le mec a dit je pense que je peux faire au moins x3 ou x5. Donc, ça veut dire qu'il voit Twitter monter en valeur à 3 à 5 milliards. Ce qui est la moitié de la valeur de Facebook. Juste pour regarder.
Ouais, pour donner les choses, oui, effectivement. C'est sûr que Facebook vaut encore plus cher. Donc, c'est pas quelque chose de totalement inatteignable, mais ça reste impressionnant.
Enfin, non, on est quand même ça se fait, hein.
Avant de passer à nos rumeurs à la con, je vais mentionner juste une petite chose que j'avais mentionnée sur Twitter il y a quelques jours. C'est une proposition de loi qui est bien de chez nous, en France, qui voudrait que les publications qui utilisent des photos retouchées par Photoshop le précisent sur la photo en elle-même. Donc précise que cette photo n'est pas la photo naturelle. Et moi, je trouve que c'est une idée absolument
formidable.
Formidable. Et même, c'est pas du tout anecdotique. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire « Ouh là là, c'est marrant, Photoshop, truc, c'est vraiment n'importe quoi, on a mieux à faire. » Moi, je trouve que c'est vraiment important parce que l'image qu'on a, particulièrement des femmes, mais pas uniquement, hein, c'est beaucoup de choses, est totalement distordue par ce genre de pratique, et on ne se rend pas compte à quel point c'est répandu. On ne se rend pas compte à quel point la moindre photo, la moindre couverture de magazine, et même la moindre photo à l'intérieur des magazines, est retouchée, est transformée, est améliorée, et je pense que ça ouvrirait les yeux à beaucoup de gens d'avoir ce type de mention. Alors, on n'interdit à personne de retoucher les photos avec Photoshop, mais ça serait quelque chose d'assez salvateur à mon sens pour nous. Je me souviens quand j'en ai parlé sur Twitter, Jérôme, je crois Jérôme de Scuds et de Zapcast a répondu oui, mais ça ouvre un débat difficile parce que est-ce que le fait, par exemple, de changer l'éclairage d'une photo, ça les qualifie pour ce genre de choses. Alors il y aurait des règles à établir, évidemment, mais à mon sens, le principe est trop important pour qu'on se laisse arrêter par les petits débats qui pourraient en ressortir. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important et je serais super heureux de voir ça arriver.
Eh bien, on sera deux.
Ok. Trois, Jeff, toi, tu t'en fous, non?
Bon, de toute façon, je regarde pas ces machins-là, donc je m'en fous. Mais non, je pense qu'effectivement, c'est la problématique de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est complètement retouché, qu'est-ce qui est complètement fake. Parce que bon, quand tu vois les travaux qui sont faits par les photographes sur les images Photoshop, c'est incroyable, quoi.
Mais ils vont quasiment,
changer la nana, quoi.
Ouais. Mais on se rend pas compte à quel point c'est omniprésent, quoi. C'est surtout ça qui me préoccupe. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'on peut le faire avec Photoshop, mais qui se rendent pas compte que toutes les photos que vous voyez, où que ce soit, publicité, magazine, où que ce soit, elles sont retouchées. Et
ça entraîne des anorexies à la con pour essayer de ressembler à ça. Et c'est vraiment du domaine de la santé publique, quoi. Donc ouais, il faut vraiment en faire attention à ça.
Bon, on est d'accord. Oui, non, Jeff, je t'ai coupé, t'allais dire un truc.
Non, là, tu as tout à fait raison. Étant le père d'une petite fille de 8 ans qui, un de ses jours, va s'intéresser aux photos de mode, etc., et va dire « Ah, bah regarde, elles sont mignonnes, elles sont cadavériques, etc. » Et va se dire « Bah tiens, il faut perdre du poids à cause de ça. » Je suis complètement d'accord que si jamais c'est surfait, il faut pouvoir le voir.
Bon, bah espérons que cette loi qui peut paraître anodine puisse passer à travers toutes les étapes nécessaires et devenir effectivement une véritable loi. Et on passe à nos rumeurs à la con. Aujourd'hui, on en a quelques-unes aussi, comme d'habitude. C'est la section de l'émission où on parle quand même des... Bah tiens, d'ailleurs... Ah, Damned, j'ai oublié de mettre le jingle de Cédric.
De toute façon, en fait, cette courte petite phrase que tu viens de dire, ça va être le jingle, en fait, de
rumeurs à la con. Voilà, exactement.
Ah merde.
Donc, attends, je vais essayer de le faire. C'est les rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Bon, il n'y a pas la musique, mais il y a au moins la voix.
Non, mais tu l'as bien
donc,
fait.
Alors, première chose, peut-être bientôt le chat vocal sur Facebook. Vous savez, vous avez un petit outil de chat en temps réel sur Facebook. Moi déjà, je le désactive tout le temps quand je suis sur Facebook. Ça m'horripile quand on contacte l'actu. Donc le chat vocal, c'est pas pour moi.
Tu veux bien être mon ami? Coucou.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas sur Facebook, Yann. Je ne sais pas où tu es. Autre info, la télé 3D, cette fois, c'est la bonne. J'entends parler de plus en plus de la télé 3D, du cinéma en 3D. Et franchement, j'ai l'impression que ce coup-ci, ça va véritablement arriver. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais par contre, quand je dis fonctionner, je veux dire, je ne sais pas si les acheteurs vont acheter. Mais ce coup-ci, j'ai vraiment l'impression que les constructeurs sont en train de développer la chose pour de vrai et que ça va véritablement arriver d'ici 2 ou 3 ans. J'ai entendu peut-être 4, 5, 6 histoires différentes qui m'ont laissé penser que ça arrivait pour de vrai.
Ouais.
Donc on verra.
D'accord,
bah c'est une technologie,
je pense pas que ça va être adopté de façon significative, quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu dois porter des lunettes pour pouvoir profiter du truc, ouais, ça te donne c'est problématique, quoi. Et si t'as 3 paires de lunettes et t'as un 4e gars qui doit arriver chez toi et t'as pas de lunettes pour lui, ben tout le monde enlève ses lunettes et on repasse au normal, quoi. Enfin, c'est contraignant. le 4e gars qui déteste.
Il y a des télés 3D qui fonctionnent sans lunettes, mais c'est un angle très limité, donc
voilà. Et puis il faut vendre. Un rein aussi. Enfin, je pense que c'est plutôt pour se vendre un rein, pour les acheter. Bref,
ouais.
Ce que je veux dire, c'est que je pense que ça peut bien marcher, mais uniquement au niveau des jeux vidéo. tu vois, là, t'es tout seul. Ouais. T'as ton écran pour toi. Tu dois pas le partager pour une immersion supérieure. Ça peut être intéressant.
En fait, ils sont beaucoup en train de faire ça pour le ciné aussi, parce que l'idée, c'est que à partir du moment où, à chaque fois que la technologie à la maison rattrape la technologie du cinéma, le cinéma évolue pour apporter quelque chose de plus. C'était le cas du cinémascope, c'était le cas de la couleur au cinéma, et aujourd'hui, ils espèrent refaire le coup avec la 3D pour attirer les gens dans les salles de cinéma.
Mais d'ailleurs, Jeff, rapidement, aux États-Unis, je crois qu'il y a pas mal de salles quand même qui projettent en 3D. Ça marche vraiment. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui, au lieu de voir un film en avant-première dans un cinéma classique, ils préfèrent aller le voir en 3D. Enfin. Non.
Tu vas avoir les cinémas IMAX où tu peux avoir. Enfin, t'as deux choses. T'as le pur 3D. Tu as le cinéma IMAX qui est le cinéma panoramique où tu vas être dans une salle qui est dans une forme spéciale où tu vas être complètement. Tu vas pas avoir en fait ce concept d'écran qui est devant toi rectangulaire. S'il va être rond et ça va tourner autour de toi et donc tu vas avoir une impression complètement différente au niveau de l'expérience. Mais c'est pas du 3D, c'est-à-dire que t'as pas des lunettes sur la tronche.
D'accord.
Et c'est vrai que l'IMAX c'est très sympa comme expérience. Moi j'avais été.
Mais il y a aussi de l'IMAX 3D. Hein.
Oui, tu as aussi de l'IMAX 3D, mais ça veut dire que tu as effectivement à ce moment-là. Le film a été filmé avec deux caméras et tu vas avoir l'effet des deux. Avec les lunettes spéciales. Et ça, c'est pas forcément super sympa. Mais ne serait-ce que l'IMAX lui-même, le panoramique, c'est vraiment très sympa.
On avait été voir Star Trek comme ça. Tous les Américains ne se précipitent pas dans les salles 3D, quoi. C'est pas devenu le standard.
Quand tu vas voir. Quand tu vas voir les genre, on avait été voir avec mon fils Star Trek, et ben Star Trek en IMAX, c'était vraiment sympa, mais on n'avait pas été le voir en 3D.
Ouais, mais Danse avec les loups en 3D, je sais pas. Enfin, désolé.
Dancing with the Wolves.
Bon,
moi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, j'ai vu des démos de ce que vont donner en fait. C'est pas franchement les télés, puisque par définition, tu vas avoir deux projos, et donc c'est des mécanismes un peu spéciaux, de manière à donner le rendu 3D. Il y a pas de secret. Il faut avoir deux projecteurs ou deux sources de films.
Non, en fait, les trucs que j'ai vus, c'était vraiment des télés, des écrans plats où en fait l'affichage est polarisé et ça envoie en fonction de l'angle une image différente. Donc c'est vraiment une télé, c'est pas un projecteur, deux projecteurs.
Moi, ce que j'avais vu, c'était les projecteurs. Ok.
Ouais. Bon, écoutez, de toute façon, c'est pas pour ce Noël. Il faudra peut-être attendre le Noël suivant pour avoir les télés en 3D, et puis le Noël encore suivant pour avoir des films en 3D, et puis le Noël encore suivant pour avoir. Enfin bref.
Et donc, et l'iPhone 3D, ce sera pour dans
3 ans. Oh mon Dieu.
Pardon ?
Non, vas-y.
Dernière petite news avant de conclure l'émission, c'est une petite info plus marrante que vraiment importante sur la B-Box, donc la box internet de Bouygues Téléphone, de Bouygues Télécom, sur laquelle on a découvert une vulnérabilité qui fait qu'elle est piratable super facilement. Alors, un conseil à vous tous, il faut changer le mot de passe en fait sur votre B-Box. Si vous ne savez pas comment faire... je sais pas,
tant pis pour vous.
Voilà. Mais le plus drôle, c'est que cette vulnérabilité a été découverte au lendemain, enfin une semaine après l'adoption de la loi Adopi, qui, devons-nous le rappeler, pénalise les gens qui n'auront pas sécurisé leur connexion Internet. C'est-à-dire qu'il est de votre responsabilité de complètement sécuriser votre connexion Internet. En l'occurrence, si c'est votre matériel qui est déficient, votre matériel fourni par votre fournisseur d'accès, s'il est déficient, eh ben on s'en fout. Selon la loi Adopi, vous êtes responsable tout de même. Donc voilà, joyeux Adopi.
Mais est-ce que ça veut dire que si jamais donc Bouygues balance un nouveau patch pour corriger cette faille-là et que l'utilisateur, lui, il n'a pas flashé son truc, il n'a pas fait la mise à jour, donc il est encore vulnérable? Ah, c'est de ta faute aussi, ben bravo.
Ah ouais, on veut pas savoir quoi, comment quoi.
Je suis bien content de me barrer au Canada.
Si... si quelqu'un a téléchargé un fichier illégal par ta connexion Internet, en fait, le problème, c'est que on peut toujours dire « Ah bah oui, mais j'en sais rien, vous avez trouvé que c'était mon adresse IP qui était responsable, mais moi, je l'ai pas fait, ça se trouve, quelqu'un m'a piraté. » Et évidemment, ce qui est une défense valable, la parade qu'ont trouvé les promoteurs de la loi Adopi, c'était de dire « Ah bah, c'est votre connexion, c'est vous qui êtes responsable. » Donc voilà. On va pas se lancer plus longtemps là-dessus, sinon on va s'énerver un petit peu. On va passer, oui, on va être de mauvaise humeur, et on veut pas se coucher de mauvaise humeur. Et pour
c'est sûr que tu veux pas bouger aux US ou au Canada, Patrick, on n'a pas ça.
Écoute, pour le moment, je suis bien là, ça va. Et pour retrouver le sourire, on a notre site fantastique et notre conseil logiciel. Et quel meilleur moyen de passer un bon moment avec ces deux petites rubriques que de nous les voir compter par l'unique Yann Allais.
Bah, écoutez, c'est oh, quelle belle entrée en matière, mais en fait c'est un petit site rapidement, hein, ça s'appelle smashmagazine.com, www.smashingmagazine.com, et c'est plutôt pour les designers, les développeurs, les gens qui aiment bien peaufiner leur site web et racheter de belles icônes et trucs comme ça. C'est un site où vous trouverez vraiment une quantité hallucinante de thèmes pour WordPress. Tout est gratuit. Vous trouverez des tonnes et des tonnes aussi de tutoriaux, d'icônes, de conseils pour pouvoir améliorer vos sites web pour que ce soit le plus intuitif possible, des conseils de professionnels. C'est vachement bien fait. Ça s'appelle smashingmagazine.com et je vous le recommande chaudement.
Et est-ce que ça marche sur Internet Explorer aussi?
Ça ne marche que sur IE.
et le conseil logiciel?
Et le conseil logiciel, c'est un petit truc qui m'a bien dépanné bien souvent. Ça s'appelle Unlocker. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé sur Windows. Je crois que sur Mac, ça arrive pas. Mais bon, sur Windows, bien souvent, vous essayez de supprimer un fichier et Windows vous dit tout simplement qu'il n'arrive pas à supprimer le fichier parce qu'il est verrouillé par je ne sais pas trop quoi. Et donc du coup, surtout quand c'est un fichier de 800 MB ou 2 Go ou que vous n'avez pas supprimé, que vous avez besoin de place, c'est bien embêtant. Et donc souvent, vous redémarrez votre ordinateur pour réussir à le supprimer. Ben là, avec Unlocker, vous l'installez, c'est un petit soft gratuit. Vous faites un clic droit sur le fichier en question qui ne veut pas supprimer, vous dites Unlock pour déverrouiller et vous allez pouvoir le supprimer sans problème. Ça marche à peu près 8 fois sur 10. Donc voilà quoi, c'est un truc très léger qui fonctionne très bien, enfin 8 fois sur 10, et je le recommande également. On vous mettra le c'était pas la meilleure façon de le dire, mais voilà quoi.
Et ça fait quoi les 20% du temps, ça marche pas?
Ah ben je préfère le dire. Non, c'est vrai que des fois, ben si t'es en train de regarder
ça,
un DivX,
ça reste bloqué quoi.
Ah, si tu regardes un DivX et que t'essaies de le supprimer, ben voilà quoi, un locker il pourra rien faire pour toi parce que t'es en train de le regarder quoi.
Oui, donc, c'est pas que ça. Parfois, voilà. T'es pas en train de l'utiliser et ça marche pas du tout.
Tant que ça te bute pas le fichier, c'est bon.
Ouais, oui, voilà. Non. Exactement.
Oui, c'est pas 8 fois sur 10 ça marche, les deux autres fois faut réinstaller Windows. Mais moi je dis ça vaut le coup quand même. Hein.
C'est quoi le surnom du truc là? Terminator. Oh.
Unlocker, on vous mettra le lien. Voilà.
Voilà, les gens qui sont confrontés au problème connaissent bien et effectivement c'est très utile. Je l'utilise moi-même et il fonctionne très bien. Eh ben écoutez, on va maintenant passer à notre petite partie d'autopromotion pour vous dire que vous pouvez aller sur iTunes, vous voyez qu'on aime bien Apple, pour aller sur iTunes pour laisser un commentaire sur la section du Rendez-vous Tech dans la section podcast d'iTunes. Vous pouvez faire par exemple comme Freddy Stax 63 qui nous dit « Cela fait quelques mois que j'ai découvert ce podcast et depuis je le télécharge toutes les deux semaines pour me l'écouter tranquille en voiture. C'est que du bonheur pour les aficionados de la high-tech, de logiciels d'OS, etc. Je ne souhaite qu'une chose, un rendez-vous tech toutes les semaines. Merci Patrick, et continue comme ça. Un rendez-vous tech toutes les semaines, ça fait quand même beaucoup de Jeff et Diane quand même chaque semaine, ouais, ça fait un beaucoup, peu trop. Ouais. Et sinon, Ad Largo nous dit, bien loin devant les podcasts et de ces grandes chaînes de radio et TV, et devant les autres podcasts tech amateurs, Patrick nous fait part des news tech avec ses invités de qualité. Il traite les sujets dans une ambiance géniale et nous convie comme une bande d'amis à écouter, etc., etc. Merci à vous deux et merci à tous ceux qui nous ont laissé un petit commentaire sur l'iTunes Store. Je le rappelle, c'est un moyen pour nous d'avoir un petit peu plus de visibilité parce que c'est un catalogue extrêmement consulté pour les podcasts. D'ailleurs, nos amis de We Love Mac sont en ce moment même deuxième du classement général de podcasts après...
après nous
après... Non, pas après nous. Après Geek Inc. qui est toujours en ce moment dans l'affichage central d'iTunes. Tu as un énorme logo Geek Inc. quand tu vas sur le répertoire des podcasts. Moi, je dis, ces deux personnes sont quand même venues sur le Rendez-vous Tech. Je crois que c'est un signe. Je pense que quand on vient sur le Rendez-vous
voilà,
Tech,
ça porte
on est remarqué, tu vois. Je pense que c'est ça. C'est la raison.
Exactement.
voilà, donc Cédric et Mathieu continuent à avoir un succès bien mérité sur l'iTunes Store. Pour conclure, je vous dirais que si vous voulez venir nous voir sur le blog et laisser des commentaires, vous pouvez aller sur lrdv.fr, c'est le rendez-vous. .fr, LRDV, voilà, ou alors frenchspin.com qui est le site central où j'ai toutes mes émissions. Vous pouvez nous envoyer un email à tech@frenchspin.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter à notepatrick, donc twitter.com/notepatrick. Et je remarque qu'il y a de plus en plus de notepeople.
Ah, t'as lancé une mode.
Ouais, c'est mode. Ça. Rien que dans la chatroom, là, il y a Note Florian. J'ai vu un autre Note tout à l'heure. Je ne sais plus qui c'était. Je crois que... Enfin bref, il y en a quelques-uns de temps en temps. Et les gars, vous, on peut vous trouver où sur Internet ? Je dis les gars à chaque fois, je dis pas qui peut commencer en premier, mais allez-y, interrompez-vous, parlez l'un sur l'autre, c'est ça qui est drôle.
Ben écoutez, moi ça n'a pas changé, vous pouvez toujours entrer en contact avec moi sur Twitter, donc www.twitter.com/yannallet, tout collé, YA2NALET, et pour Patrick, Jeff, pardon.
Oh bon, on peut parler Jeff. De Patrick, hein.
Non mais j'ai déjà parlé de moi suffisamment.
Oui, voilà.
Mais non, encore. Eh bien, vous pouvez me retrouver à twitter.com/Jeff, J-E-F-F.
Eh bien, ça va être tout pour notre émission d'aujourd'hui. On se retrouve, comme d'habitude, dans deux semaines. Ça sera le 12 octobre. Si vous voulez participer à l'émission par la chatroom, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le blog. Et on se retrouvera donc dans deux semaines. On vous salue bien bas tous. On remercie la chatroom et Sir Edwin qui, comme toujours, fait une modération super efficace.
Merci Sir Edwin.
À très très vite. Ciao, ciao.
Salut.
Salut.
Et d'ailleurs, je fais appel à vous deux et même à tous les gens de la chatroom. Si jamais vous obtenez, c'est mercredi, hein, l'arrivée de Google Wave, si vous obtenez une invitation et qu'il est possible d'inviter d'autres personnes, pensez à moi parce que si je n'ai pas...
Pensez à nous.
Non mais non, attends.
Jamy, si quelqu'un d'autre vous...
Non, je veux pas le savoir. Yann, quand on a commencé à parler de Google Wave, moi j'étais en pamoison devant le service et toi tu disais...
Il en pleurait d'avance.
Mais ouais, moi j'en pleurais. Il me fallait des mouchoirs pour m'essuyer les yeux et tout. Toi tu disais... Moi, c'est une sorte de petit Google Docs partagé, ça n'a aucun intérêt. Non, rien du tout. La première invite, elle est pour moi, et après...
Je me souviendrai de ça si jamais j'ai une invite pour Google Wave, je me souviendrai de
tout. Oui, enfin, je veux dire, Yann, je t'ai toujours aimé, tu as toujours été mon animateur préféré.
Genre...
Non, ceci dit, parmi nous, c'est peut-être Jeff
préféré,
qui a le plus de contacts. Ouais, c'est ça, merde. Bon, écoutez, je vous enverrai à chacun un email séparé pour vous dire ce que je pense.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.